Écologie, socialisme ou barbarie par Murray Bookchin. L'écologie sociale, telle a été sa grande affaire. Étant donné que presque tous les problèmes écologiques sont des problèmes sociaux, Murray Bookchin a, des décennies durant, développé l'idée que l'écologie était indissociable d'une politique pleine et entière d'émancipation qui a volontiers nommé communisme libertaire. Oui, quel crack, il a raison, l'écologie c'est des problèmes sociaux avant tout. S'il a bien sûr dénoncé la bouffonnerie du capitalisme vert, Bookchin a également ouvert aux deux autres fronts contre une défense de la biosphère étroitement localiste, identitaire et passéiste, contre une approche intérieure, mystique, ésotérique ou néo-païenne du péril écologique. De livre en livre, il a ainsi plaidé pour une écologie rationnelle ancrée dans les traditions socialistes et populistes de la gauche. En 1989, il débattait avec Dave Foreman, cofondateur de l'organisation états-unienne Earth First et partisan de l'écologie profonde. Ah oui, écologie profonde, c'est un peu... pas extrême droite, mais c'est un peu genre les écolos misanthropes, pour que vous voyez un peu l'idée. Sous le titre « Quelle écologie radicale ?», les éditions Atelier de création libertaire viennent de republier leurs échanges près de 30 ans après la première édition, épuisée. Nous en publions quelques pages. Oh, bah je vais lire, ça va être intéressant ça. De quoi ça va être une période de paye faste pour les gauchistes qui aussi ce mois-ci j'ai dû recevoir 5 ou 6 abos. Ah let's go boss, ouais en ce moment c'est cool. Les gens font plein d'abos, tant mieux pour nous. Merci à vous tous pour vos abonnements, les gens c'est important. N'hésitez pas à soutenir si vous voulez voir encore des streams, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup les gens. Il est très important que nous empêchions le mouvement écologiste de se dégrader, de dégrader ce concept de spiritualité en croyance. En une forme vulgaire de culte atavique, de la nature peuplée de dieux, de déesses, et finalement d'une hiérarchie nouvelle de prêtres et de prêtresses. Les gens qui croient que la solution est de créer une nouvelle religion verte, ou de raviver les croyances en des dieux et les déesses, ou des lutins des bois, dissimulent sous un mysticisme le besoin de changement social. En vrai, il a raison. Article du Lofi, c'est comme Inversus. Ben oui, bien sûr. Cette tendance nombreuse chez les écologistes profonds, des écoféministes et les verts du New Age me préoccupe. En vrai, je suis un peu d'accord avec lui, et c'est un peu des fois ce que je peux critiquer, par exemple, chez un Aurélien Barreau, même s'il est il critique le capitalisme, bien sûr, mais ou même, enfin pas forcément lui, mais des gens un peu, on va dire païens, quoi. C'est qu'il y a un peu cette logique de du fameux colibri, quoi. C'est que oui, bon, le colibri va régler la solution, et du coup, si on fait tous nos petits gestes, avec une bonne croyance, une bonne morale, on arrivera à avancer sur les questions écolo.
Comme ça, il dit, moi, je fais pas de politique.
Voilà, et moi, je trouve que c'est hyper important de questionner ce truc-là. Après, attention à ne pas non plus tomber dans l'inverse ultime. C'est ça. Et attention à ne pas non plus tomber dans le truc ultime de, du coup, critiquer toutes les choses qui pourraient tendre vers la religion. C'est un espèce d'entre-deux qu'il faut réussir à avoir et en même temps respecter ceux qui ont des croyances, mais quand même avancer sur la politique. Il nous faut encore développer une perspective pleinement écologiste. La différence la plus insurmontable entre l'écologie sociale et la gauche traditionnelle est que la gauche traditionnelle tient pour établi, consciemment ou inconsciemment, que la domination de la nature est un impératif historique objectif. Ça, on a lu un article là-dessus pour ceux qui veulent, la critique de Koe Sato, justement sur le fait que le communisme est trop productiviste et du coup il faut sortir de cette idée-là. Pour ceux qui veulent, il y a Koe Sato qui en parle bien, sur un communisme décroissant. Dans la lignée de Marx, la plupart des hommes de gauche croient que la domination de l'homme par l'homme est, pour du moins était, un mal inévitable, historiquement, directement issu du besoin humain objectif de dominer la nature. Libéraux, sociodémocrates, marxistes et même un certain nombre d'anarchistes classiques ont adopté ce point de vue dominant de notre civilisation moderne, selon lequel le monde naturel est aveugle, muet, cruel, compétitif et mesquin. Voilà, donc ça c'est clairement ce que critique Koe Sato dans son article, en disant, en gros c'est toute la critique de dire, pour avoir un communisme, il faut passer par le capitalisme. Le capitalisme est un stade pour avoir un communisme. Lui il critique tout ça en disant que non, on peut faire autrement, et faut repenser cette question-là. Le capitalisme c'est une religion à part après. Oui, de ouf, ça c'est vrai. Ce qui me choque ici, c'est l'idée selon laquelle l'humanité serait confrontée à une altérité hostile contre laquelle elle devrait opposer ses propres forces de labeur et de ruse avant de pouvoir s'élever au-dessus du domaine de la nécessité pour atteindre un nouveau domaine de la liberté. Et en vrai, toute une logique aussi guerrière, va-t-en-guerre, etc. C'est cette approche de la nature qui a permis à Marx de décrire le capitalisme comme une force progressiste de l'histoire. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Pour Marx, le capitalisme a poussé les êtres humains au-delà de la déification de la nature et de la satisfaction des besoins dans des limites bien définies. Le capitalisme, selon beaucoup d'hommes de gauche aujourd'hui, qu'ils y pensent consciemment ou non, est la précondition historique de la libération de l'homme. Nous ne méprenons pas. Marx, comme la plupart des théoriciens sociaux modernes, croyait que la liberté humaine nécessitait que les mondes naturels deviennent simplement un objet pour le genre humain, purement une question d'utilité, soumis aux exigences humaines. Alors, là du coup, moi je vais nuancer, je suis pas d'accord avec ça, parce que le jeune Marx est d'accord avec cette idée-là, le vieux Marx n'est pas du tout d'accord avec cette idée-là. Et du coup là, vraiment, allez voir, pour ceux qui veulent aller comprendre ce que je veux dire par là, lisez l'article que je vous ai, enfin écoutez l'article que je vous ai envoyé sur Koe Sato, où justement il explique bien que le vieux Marx repense complètement cette question-là et arrive à comprendre que finalement non, dominer la nature n'est pas une bonne chose et qu'il faut du coup nuancer ça et réfléchir à ça. Et du coup voilà, faut prendre conscience que Marx durant l'histoire a aussi évolué dans sa pensée. Ce tableau idéologique dressé, il n'est pas surprenant que la plupart des gens de gauche ne s'intéressent réellement aux problèmes de protection de l'environnement seulement pour des raisons purement utilitaires. Ça, il a vraiment raison. Ces gens de gauche supposent que l'intérêt que nous portons à la nature repose uniquement sur notre intérêt personnel plutôt que sur un sentiment de communauté de vie de manière à la fois unique et distincte. Et en vrai, et là même où je vais appuyer le propos de Murray Bookchin, c'est qu'on peut voir par exemple la gauche occidentale qui s'empêche pas d'être de gauche mais de continuer l'impérialisme et de continuer de profiter de l'extractivisme du sud tout en s'enrichant et tout en faisant passer des lois progressistes. Donc attention aussi au terme de gauche, il y a plusieurs formes de gauche. Il y a là une approche grossièrement instrumentale reflétant une aliénation mentale grave à nos sensibilités morales. Étant donné un tel argument, notre relation morale à la nature n'est ni bonne ni mauvaise, à l'image de l'efficacité avec laquelle nous pillons le monde naturel sans souffrir d'aucune façon. Il est basé, Bookchin. Barbe diff pour le vieux Marx et 100 balles. Je rejette fondamentalement cette idée. L'écologie sociale offre une perspective libertaire de gauche qui ne souscrit pas à cette notion pernicieuse. Les écologistes sociaux appellent, au lieu de cela, à la création d'une société authentiquement écologique et au développement dans une sensibilité écologiste qui respecte profondément le monde naturel et la poussée créatrice de l'évolution naturelle. Nous ne sommes pas intéressés par la destruction du monde naturel et de l'évolution même si nous pouvions trouver des substituts synthétiques ou mécaniques, exploitables ou adéquates aux formes de vie et aux relations écologiques existantes. Et voilà, et ça c'est un truc qui est très important à prendre en compte pour Murray Bookchin. Il n'est pas technophobe, attention. Il n'est pas technophobe, par contre, il est dans la logique un peu de Ivan Illich et André Gorz, la technologie émancipatrice et libératrice. Les écologistes sociaux soutiennent, en se basant sur une évidence anthropologique dite d'attention, que l'approche moderne de la nature en tant qu'altérité, hostile et mesquine, est historiquement issue d'une reproduction des relations sociales hiérarchiques faussées envers elle. En clair, dans les sociétés tribales organiques, non hiérarchisées, la nature est habituellement considérée comme une source féconde de vie et de bien-être. En effet, elle est perçue comme un ensemble intrigant, intégrant l'humanité. Donc ça, il a raison, on peut penser notamment aux acuars en Amazonie, comme le dit très bien Descola, où le terme nature n'existe pas, en fait c'est un ensemble d'âmes qui existent et qui se confrontent et qui vivent au quotidien les uns avec les autres. Et du coup, il y a des populations qui vivent en intégrant donc ce que nous on appelle nature, ils l'intègrent dans leur quotidien et c'est des frères et sœurs babouins, des frères et sœurs tapirs, etc. Cela produit une éthique de l'environnement bien différente de celle des sociétés hiérarchisées et stratifiées d'aujourd'hui. Cela explique pourquoi les écologistes sociaux mettent continuellement l'accent sur le besoin d'harmoniser de nouveau les relations sociales comme moyen fondamental de résoudre la crise écologique de manière profonde et durable. C'est un élément essentiel dans le rétablissement d'une relation éthique et complémentarité avec le monde non humain. Voilà, donc ça je suis d'accord avec lui, et c'est ce que disait tout à l'heure Charnte au début du stream quand elle disait on relègue les enfants en tant qu'objet, etc. Et voilà, ça fait partie aussi de cet avancement qu'on pourrait dire écolo, qui est sociale, mais qui est aussi une avancée écologique, c'est parce que bah, ça nous permettrait de, si on prend bien soin des enfants, bah, on arriverait peut-être à mieux comprendre et prendre soin de l'environnement. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas idiot. Et soyons bien clairs là-dessus. Nous ne sommes pas simplement en train de parler de mettre fin à l'exploitation des classes, comme la plupart des marxistes le réclament, aussi important que ce soit. Nous sommes en train de parler de l'anéantissement de toutes les formes de hiérarchie et de domination dans toutes les sphères de la vie sociale. Ah oui, Murray Bookchin, c'est un anarchiste, bien sûr. Bien sûr, la source immédiate de la crise écologique est le capitalisme, mais à cela, les écologistes sociaux ajoutent un problème profondément enfoui au cœur de notre civilisation. L'existence de hiérarchie et mentalité, ou culture hiérarchique précédant l'émergence des classes et l'exploitation économique. Ah bah tiens ! Eh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, Murray Bookchin, il est d'accord avec ma position. Là, les Darren Live et tout, là. Allez écouter Murray Bookchin. Merci, Jules Vex, pour l'abonnement. Pour le follow, pardon. Un Marx et ça repart. Les féministes radicales de la première heure qui ont, dans les années 70, pour la première fois, soulevé le problème du patriarcat l'ont bien compris. Nous avons beaucoup à apprendre de l'approche anti-hiérarchique du féminisme et de l'écologie sociale. Nous avons besoin de chercher dans ce système institutionnalisé de coercition, de commande et d'obéissance qui existent aujourd'hui et qui ont précédé l'émergence des classes économiques. La hiérarchie n'est pas nécessairement motivée par l'économie. Voilà. Et ça, en vrai, ça rebondit bien à la logique. Où les gens ils disent par exemple, oui, mais si on fait tomber le capitalisme, les questions d'antiracisme et de féminisme vont être réglées. Bah, que nini, en fait. Ces relations-là existaient avant et existeront après. Bookchin est sur le stream 100%. De ouf, hein. Nous devons regarder au-delà des formes économiques d'exploitation vers des formes culturelles de domination existant au sein de la famille, entre générations, sexes, groupes raciaux et ethniques, dans toutes les institutions politiques, économiques et sociales, et de manière très significative dans la façon dont nous appréhendons la réalité dans nos ensembles, y compris de la nature et les formes de vie non humaines. Bah voilà, je suis 100% d'accord avec Murray Bookchin. J'ai même l'impression de lire quelque chose que j'ai dit en début de stream, là, pour vous dire... Alors je me lance un peu des fleurs, mais c'est pas faux. Je crois que la couleur du radicalisme aujourd'hui n'est pas le rouge, mais le vert. Je comprends même, étant donné l'analphabétisme écologique de tant de membres de la gauche conventionnelle, pourquoi tant de militants verts se considèrent eux-mêmes comme ni de gauche ni à droite. Oh, c'est intéressant, ça. Hyper intéressant, cette position-là. On attend tous ton livre, BAM. Attends, j'avoue, l'écologie prolétaire. Peut-être un jour. Initialement, je voulais travailler avec ce slogan. Je ne savais pas si nous allions de l'avant comme ce slogan le suggère. Mais je voulais au moins me diriger vers quelque chose de nouveau. Quelque chose d'à peine anticipé par la gauche conventionnelle. En effet, peu de personnes ont été aussi intransigeantes dans leur critique du paradigme social conventionnel que je l'ai été. Aujourd'hui, par exemple, le mouvement vert américain ne peut se décider à dire d'une seule et même voix s'il est opposé au capitalisme ou non. Et en vrai de vrai, notre mouvement écolo à nous, c'est pareil. Hein. En vrai de vrai, les verts, les groupes verts, le groupe Jadot n'est pas forcément contre le capitalisme. Hein. En effet, certains US Green Communities of Correspondence locaux sont constitués de républicains modérés et de démocrates libéraux qui parle de marché totalement libre et de capitalisme vert et de consumérisme vert comme moyen suffisant pour contrôler la politique des entreprises multinationales. Bah ça, c'est un peu comme ce qu'on a en France, en vrai. Il parle d'animer des ateliers pour directeurs de sociétés afin de les encourager à adopter une éthique des affaires et consonance écologique. Une approche verte libertaire de gauche coupe court à cette pensée superficielle, réformiste et très naïve. En vrai, ça me fait penser à l'entreprise, là. Il y a une start-up qui fait ça, là. La fresque. Une start-up qui montre une fresque, je sais pas quoi, sur le climat. Consumérisme vert, il y a des... En mode le jetable, quoi. Je pense que c'est tout ce qui est jetable, etc. En mode, si vous consommez jetable et bio, on peut tendre vers un consumérisme vert, à mon avis. La tradition radicale de gauche est sans équivoque anticapitaliste. Les Verts peuvent apprendre d'une approche écologiste libertaire que le capitalisme est fondamentalement anti-écologique. Oui, ça vraiment, c'est la clé de l'écologie, c'est ça. Tôt ou tard, une économie de marché dont la loi même de vie se structure autour de la compétition et de l'accumulation système basé sur la maxime du marché marche ou crève, doit nécessairement déchirer la planète, tout facteur culturel et moraux mis à part. Ce problème est systématique, pas simplement éthique. Ah putain, mais oui, il est vraiment basé le frérot. Hein. Le capitalisme multinational des grandes sociétés est un cancer de la biosphère qui détruit sur cette planète avec rapacité le travail de siècles d'évolution naturelle ainsi que les supports de formes de vie complexes. Le mouvement écologiste n'ira nulle part s'il ne fait pas directement face à cela. À son crédit, Earth First a fait mieux que la plupart des mouvements écologistes en comprenant ce point. Ah, c'est intéressant ça. Je connais pas Earth First. Pardon. Oh, il est stylé le logo. Earth First, une organisation radicale écologiste apparue dans le sud-ouest des États-Unis, cofondée le 4 avril 80 par Dave Foreman, Mike Rosell, Howie Wolk et moins directement Bart Kohler et Ron Kezar. Inspiré du livre Rachel Carson, Printemps silencieux, un livre incroyable, et de celui de Edouard Abbé, Le gang de la clé à molette. Oh, mais ça a été trop stylé. Et des idées de Aldo Leopold. Mais wesh, un groupe d'activistes écologistes dépités par des grandes organisations environnementalistes d'alors déclare « No compromise in defense of Mother Earth ». Pas de compromis pour la défense de la Terre-Mère. Oh. En vrai, ça a l'air d'être turbo-basé. Hein. Oh, vas-y, on va mater un documentaire là-dessus. Ou en tout cas, lire un bouquin, ou bref. Ça a l'air d'être trop intéressant. Les éco-cups qui sont de base réutilisables, mais que chaque event gros festoche édite de nouvelles à chaque édition. Mais tu comprends, c'est pour avoir pas avoir de déchets. Oui, voilà, bah par exemple, boss de ouf, ouais. Du miel à mes oreilles. Ah ouais, l'article est incroyable. Hein. En outre, je crois que l'absence d'une perspective verte libertaire de gauche a rendu trop d'écologistes et de féministes critiques du siècle des Lumières, dénigrant l'humanisme, le naturalisme, la raison, la science et la technologie. Bon là, j'avoue, je connais pas trop la situation, je pense que c'est un cas presque plutôt états-unien. Cela se comprend sans aucun doute si l'on considère la manière dont ces idéaux humains ont été pervertis par une société cancérigène centrée sur le patriarcat, le racisme, le capitalisme et la bureaucratie. Le rejet sans discernement des réalisations dues au siècle des Lumières aboutit invariablement à jeter le bébé dans l'eau du bain. Ouais, bon ça je suis un peu d'accord avec lui, après il garde en tête que le siècle des Lumières a quand même des dingueries, faut quand même le mettre en avant quoi. Ça me plaît plus que l'American First de Trump, de ouf hein. Je peux pas m'empêcher de lire Earth Fist. Bah bravo! Que notre société ait réduit la raison à un rationalisme industriel dur, centré sur l'efficacité plutôt que sur les intellectualités moralement inspirées, qu'elle utilise la science pour quantifier le monde et diviser la pensée contre le sentiment, qu'elle utilise la technologie pour exploiter la nature, y compris la nature humaine, ne devrait pas amener à nier la valeur des idéaux sous-jacents du siècle des Lumières. Ouais. Je sais pas, il y a un gars qui a essayé de faire ça sur Le Média, je crois. Universalisme fanonien. Attendez. Fanon. Je comprends l'idée, mais je suis pas hyper convaincu non plus. Voilà, il y a ce mec-là qui a fait ça. L'antiracisme vraiment universaliste de Frantz Fanon. Je comprends l'idée, en vrai, je suis d'accord avec cette idée dans le fond. Hein. Mais il y a quand même eu vraiment des dingueries dans le siècle des Lumières et des fois, on le prône un peu trop comme quelque chose de... Enfin, des fois, on le prône trop ce siècle-là sans trop le critiquer, entre guillemets. Après, à gauche, en vrai, non, mais voilà. C'est pour ça que je comprends sa position, mais je trouve qu'il faut faire quand même gaffe. Nous avons beaucoup à apprendre de la solide tradition organismique de la philosophie occidentale qui commence avec Héraclite et se perpétue à travers la dialectique quasi-évolutionniste d'Aristote, de Diderot et de Hegel. Nous avons beaucoup à apprendre des analyses éco-anarchistes de Pierre Kropotkine et, vous m'avez bien entendu, des points de vue économiques radicaux éclairés de Karl Marx. Ces approches antisexistes, humanistes et révolutionnaires de Louise Michel et d'Emma Goldman, ainsi que des visions communautaires de Paul Goodman, Gutkind et Lewis Mumford. Et c'est pour ça que là, en vrai, je suis d'accord avec ce qu'il dit Murray Bookchin, et je vais aller plus loin en disant... C'est aussi temps maintenant d'aller plus loin pour ça, et du coup je vous conseille par exemple la revue Période, où vous avez justement des penseurs qui s'inspirent de ces gens-là, et qui vont plus loin. On peut penser à Andreas Malm, on peut penser à Koe Saito, on peut penser à bref tous les gens comme ça, qui sont marxistes et qui du coup vont plus loin que les anciens. Il faut aussi évoluer et pas trop bander sur les anciens penseurs quoi. Après, si vous n'avez jamais lu Louise Michel, lisez Louise Michel, évidemment, mais il faut aussi la dépasser. Comme il faut dépasser Marx, comme il faut dépasser tous les auteurs, quoi. La nouvelle mode anti-siècle des Lumières qui déclare que ces penseurs n'ont pas de raison d'être, ou même pire, me choque et m'effraie. Bon, ça, je suis un peu d'accord. Je pense qu'il faut nuancer, et de toute façon, dire que tous les penseurs sont, n'apportent rien, c'est une erreur. On a même vu la dernière fois en stream, même Heidegger a apporté des trucs intéressants. Ça a beau être un nazi, ça a beau être une immense merde, il a quand même eu des réflexions intéressantes. Et c'est une erreur de penser que... après, une erreur, attention, à nuancer. Hein. Bien sûr qu'il y a des mecs qui n'ont vraiment rien apporté de bon, mais un philosophe, en général, a quand même des trucs intéressants. Même si c'est que des trucs critiques, la critique, elle est quand même utile pour avancer. Et ça, faut réussir à le comprendre et l'utiliser. BHL. Oui, mais voilà, BHL est l'exception qui confirme la règle, Fickelkraut. Ce sont des exceptions qui confirment la règle. Non, mais oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, Gabriel. Il faut nuancer aussi ce propos-là, mais dans l'ensemble, attention à pas tout jeter à chaque fois, quoi. Regardez, par exemple, Onfray. En vrai, regardez, Onfray. Onfray, c'est la vraie... Onfray, c'est une personne qui est intéressante. Le Onfray d'avant est vraiment intéressant. Le Onfray d'après, c'est une immense merde. Donc, tu vois, faut un peu aller plus loin. Mais dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi, Gabriel, pour les deux autres personnes que tu as citées. Elle peut être tout à fait dangereuse. Des modes anti-rationnels, anti-humanistes, du surnaturel, de l'esprit de clocher et de l'atavisme sont des bases effrayantes pour construire une société nouvelle. De telles approches peuvent mener trop facilement aux extrêmes du fanatisme politique et à une passivité sociale. Elles peuvent facilement devenir réactionnaires, froides et cruelles. Ok. Bon, ça m'intéresse. J'irai fouiller un peu plus loin. Onfray flippant la reverse. Oui, Onfray vraiment... moi, j'ai une théorie, mais je pense que c'est son AVC qui l'a vraiment fait vriller, quoi. Alors, je sais pas si c'est possible ou pas, mais j'ai l'impression que son AVC l'a vraiment, vraiment fait vriller. Hein. C'est quoi un esprit de clocher ? Bonne question. C'est vrai que moi, je dis ça un peu en mode tunnel. Je pense pareil, ouais, ça m'étonne pas. Non, Onfray était déjà médiocre à la base, il a juste vieilli. Non, il n'est pas forcément médiocre, il avait quand même des pensées assez intéressantes. Après, je le connais pas trop, mais je sais qu'il a apporté des trucs pas trop mal. Esprit de clocher, attachement prévalent à son village, à sa localité. Ah oui, en mode, ok, sectaire, ouais, c'est en mode réactionnaire, quoi. Ça, et le cancer de sa femme, il me semble, ça l'a rendu super, super aigri. Ouais, moi, je dirais ça aussi après, DCK. Bon, c'est pas si c'est la bonne, je sais pas si c'est la bonne tech, mais j'aurais pensé à ça, quoi. C'est un auteur edgy plus qu'un philosophe. En vrai, Gabriel, je suis un peu plus d'accord avec ça, je pense. J'ai vu arriver cela dans les années 30. C'est la raison pour laquelle je dis que l'écofascisme est aujourd'hui une vraie possibilité au sein de notre mouvement. Oh, il en parle déjà, tiens. C'est pourquoi j'ai critiqué plusieurs des affirmations misanthropes qui ont été publiées dans Earth First. Pourquoi j'ai dénoncé ces quelques membres d'Earth First qui se tiennent autour de feux de camp en scandant à bas les êtres humains, et pourquoi j'ai exprimé ma consternation devant le fait que des déclarations extrêmes sur le sida, l'immigration ou la famine énoncées par des membres d'Earth First soient restées sans démenti par des philosophes de l'écologie profonde tels que George Sechion, Bill Devalant, Ernest. Oh, c'est intéressant ça. Je suis d'accord avec Dave Foreman pour dire que nous devrions respecter la diversité au sein de notre mouvement, mais nous ne devrions pas confondre diversité et contradiction totale. De tels points de vue sont au mieux inutiles, au pire inefficaces, voire très dangereux. Voilà, je suis d'accord avec ça aussi. Et c'est pour ça que j'avais entendu dire que écologie profonde, c'est un peu réactionnaire nazi. Bah voilà, là on a la critique du coup. N'y a-t-il pas de place dans notre mouvement pour une éthique humaniste ? N'y a-t-il pas de place pour la raison ? N'y a-t-il vraiment pas de place pour une technologie consonance écologique qui puisse satisfaire les besoins matériels de base avec un minimum de dur labeur, laissant aux gens le temps et l'énergie pour pratiquer démocratie directe, vie sociale approfondie, la nature et satisfaire ses goûts culturels. Et ben tiens, ce passage-là me fait penser au stream de Calivision sur les IA. Et la vision de Calivision sur les IA, je suis 1000% d'accord avec lui. Du coup, je vous conseille ce stream-là si vous voulez aller un peu plus loin sur la réflexion. Et en disant, justement, l'IA, il faut l'utiliser comme un outil qui permet d'émanciper les travailleurs qui font des tâches répétitives, etc. Et ça, il a 100% vision, 100% raison. Et du coup, je vous le conseille. Attendez, Shallout. Calivision. Voilà. Ah, n'hésitez pas d'aller follow la chaîne de Calivision, bien sûr. N'y a-t-il pas de place pour les sciences naturelles? N'y a-t-il pas de place pour une mise en valeur de l'intérêt humain universel? Est-ce vraiment écologique de critiquer ainsi l'humanité? Devons-nous réellement remplacer le naturalisme par les nouveaux mondes surnaturels qui commencent à être la mode? Dev a sans doute raison lorsqu'il affirme que le fantastique et le merveilleux ont la place capitale dans l'esprit humain rationnel. Cependant, ne permettons pas qu'une célébration de ces manières d'appréhender le monde ne dégénère pas en un anti-rationalisme comme cela est arrivé trop souvent ces temps-ci. N'autorisons pas que les célébrations de la nature comme une fin en soi ne dégénèrent en un anti-humanisme misanthrope. Ça, je suis vraiment d'accord avec lui et c'est ultra cringe les gens qui font ça. Ne permettons pas qu'une appréciation des traditions spirituelles des peuples tribaux ne dégénère en une approche réactionnaire, surnaturelle, anti-scientifique et anti-technologique, appelant à l'anéantissement de la civilisation et à la valorisation des sociétés basées sur la cueillette et la chasse comme la seule façon légitime de vivre. Ça pareil, je suis assez d'accord avec lui. Pour les gros pecs, la mif. De quoi ? Là, filtrer trois fois, c'est du lourd pour les gros pecs, la mif. Let's go. J'appelle tous les militants du mouvement à défendre le naturalisme ainsi qu'un humanisme écologiste étendu. C'est l'une des plus importantes leçons que j'ai apprises de cette tradition libertaire dont je viens. Si nous devons créer une société écologique libre, nous aurons besoin de retenir cette leçon et nous devons opposer à cet anti-siècle des Lumières qui a éloigné de nous trop de nos alliés potentiels. C'est, j'aime bien parce qu'il est stratégique en vrai. Il est assez stratégique, il essaie de comprendre comment on fait pour attraper les gens. Très très intéressant, Bookshin. Nous avons besoin d'associer pleinement le bouleversement écologique et bouleversement sociaux, de rivaliser avec les intérêts matériels des grandes entreprises et de la politique, ce que nous devrions plus justement nommer capitalisme, d'analyser, d'explorer et d'attaquer la hiérarchie en tant que réalité, pas seulement en tant que théorie, de reconnaître les besoins matériels des pauvres et du tiers-monde, de fonctionner politiquement et non comme un culte religieux, de donner aux races humaines et à l'esprit humain ce qui leur est dû dans l'évolution naturelle plutôt que de les considérer comme des cancers de la biosphère, d'examiner les économies aussi bien que les âmes, de développer une éthique à tendance écologique plutôt que d'aller se perdre dans des querelles scolastiques sur les droits des virus pathogènes. Ah, en vrai ? C'est intéressant ça ! En mode, bon, les antispécistes radicaux, on s'emmerde, quoi. Globalement, bon, on a d'autres chats à fouetter. Bon, je troll un peu, hein, mais il y a un peu de ça, quoi. Après, en vrai, je force, hein, je force. En effet, à moins que le mouvement d'écologie radicale n'intègre les préoccupations écologiques aux préoccupations sociales de longue date, de la tradition libertaire de gauche, ainsi que les écologistes sociaux ont tenté de le faire, notre mouvement sera réquisitionné, attaqué ou transformé en quelque chose de triste et d'opprimant. Je ne follow. Non ! Soyons réalistes, les propositions spécifiques de décentralisation, de petites communautés, d'aide mutuelle et de communalisme que les philosophes de l'écologie profonde comme Session et Denval ont emprunté aux éco-anarchistes comme Pierre Kropotkin et moi-même ne sont pas intrinsèquement écologistes ou émancipatrices. Ah ! Très très bonne critique, oui. Et ça, il a raison. Les éco-villages, ce n'est pas une solution qui est forcément émancipatrice ou écologiste. Tu peux avoir des rapports de hiérarchie turbo-cringe, tu peux avoir du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, etc. Tu vois. Ça ne règle pas tout. Donc c'est assez intéressant d'être honnête sur la question. Un tel résultat dépend au fond du contexte social et philosophique dans lequel nous plaçons à de tels programmes. Peu de sociétés furent plus décentralisées que le féodalisme européen qui se structurait autour de petites communautés reposant sur une aide mutuelle et sur une utilisation commune de la terre. Pourtant, peu de sociétés furent plus hiérarchisées et plus opprimantes. Là-dessus, il a raison pour ceux qui veulent. Le livre « Less is more » en parle très bien de ça. J'ai mis quelques citations, donc si vous voulez un peu lire ça. Mais je vous conseille de lire son bouquin-là, au moins la première partie, qui refait un espèce de rappel sur le capitalisme, le servage, etc. Le nombre d'éco-villages qui sont partis en couille, c'est bien d'en être conscient. De ouf, Knaki, de ouf. Surtout, ouais, pour ceux qui ne savent pas, Murray Bookchin, c'est un des penseurs du communisme libertaire, communalisme libertaire, donc des vies en petites sociétés communalistes, qui a notamment inspiré le Rojava kurde avec Abdullah Öcalan. Donc, tu vois, c'est un mec qui a vraiment réfléchi à ça, qui a mis toute sa pensée sur cette question-là. Et du coup, bah, il se critique lui-même, il critique cette posture-là. Et ça a permis notamment d'avoir le Rojava kurde, alors pas que grâce à lui, hein, bien sûr, grâce aussi à Öcalan, évidemment, mais d'avoir un peu cette construction sociale qui existe. L'économie seigneuriale du Moyen-Âge accordait une grande importance à l'autarcie ou autosuffisance, ainsi qu'à la spiritualité. Pourtant, l'oppression fut souvent intolérable et la grande majorité des gens qui appartenaient à cette société ont vécu dans un assujettissement total envers leurs supérieurs de la noblesse. Une approche verte précise, créatrice et réfléchie, de gauche, peut nous aider à éviter cette fatalité. Elle peut fournir une structure de base ou un contexte philosophique cohérent, pouvant éviter l'insensibilité morale, le racisme, le sexisme, la misanthropie, l'autoritarisme, l'inculture, qui ont parfois fait surface au sein des cercles de l'écologie profonde. Elle peut aussi fournir une alternative cohérente et la négligence traditionnelle de la gauche vis-à-vis de l'écologie et à son engagement purement utilitaire plus récent dans l'environnementalisme réformiste. Je suis convaincu que nous allons avoir besoin de vertir la gauche et de radicaliser les verts si nous avons l'intention de défendre efficacement la Terre. Let's go, incroyable! Trop cool le texte. J'espère que ça vous a plu. Le texte était trop cool.